journal présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Après son transfèrement depuis la Belgique, Salah Abdeslam est présenté aux juges antiterroristes parisiens cet après-midi. Le principal suspect encore en vie des attentats de Paris se montre coopératif selon son avocat Franck Berton. Nous l'entendrons et puis nous serons avec Antoine Marette pour nous expliquer la suite de la procédure. L'inquiétude de l'intersyndicale de la FNAC après l'annonce de la prise de contrôle de Darty, 3000 postes pourraient être supprimés. Les explications d'Hakim Kasmi sont à suivre. Sur fond de montée de l'extrême droite, l'Autriche reste les conditions du droit d'asile. Une loi vient tout juste d'être adoptée au Parlement. Blaise Gauquelin est à Vienne avec les détails. La guerre civile a fait des dizaines de milliers de morts dans ce pays en moins de 2 ans. Après le retour du chef rebelle, Riek Machar investit aujourd'hui comme vice-président. Y a-t-il un espoir de paix au Sud-Soudan? Nous entendrons l'analyse de Christian Delmé, chercheur à l'Institut des mondes africains. Au sommaire du grain à moudre, Hervé Gardette.
Il y a une émission en écho avec l'actualité autrichienne puisque nous poserons la question suivante. Les routes migratoires ne font-elles que se déplacer? Et nous en parlerons avec Nelly Robin, Céline Schmitt et Caroline Douki.
Merci Hervé et à tout à l'heure, 18h20. Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos des attentats de Paris qui ont fait 130 morts le 13 novembre dernier, est toujours au palais de justice de Paris. Il est présenté aux magistrats instructeurs en vue de sa mise en examen. Un autre juge statuera ensuite sur son placement en détention provisoire. Représenté jusqu'à présent par l'avocat belge Sven Marie, Salah Abdeslam sera défendu en France par le ténor du barreau lillois Franck Berton. Franck Berton qui le présente sous un jour coopératif.
Il est disposé à coopérer, à parler. Vous savez qu'il ne s'est pas opposé notamment à son transfert en France. Je pense qu'il se rend compte des accusations et sa responsabilité. Déjà, c'est une chose importante. J'ai trouvé un garçon assez effondré, avec une prise de conscience évidente. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'il s'inscrit dans cette démarche. Je crois qu'il faut profiter de cette démarche parce que sinon, vous savez, une instruction avec un garçon taisant qui ne dit rien, qui ne veut pas répondre aux questions de la justice et, ou même aux questions que se posent les familles de victimes, ça n'a pas de sens. S'il participe et il m'assurait qu'il le ferait à l'instruction judiciaire, et ben c'est déjà quelque chose d'important qui permet aussi de mesurer une certaine rupture avec l'instruction de dossiers terroristes ou très souvent. C'est la loi du silence et de l'opposition systématique. Et ça ne sera pas le cas là, en l'espèce.
L'avocat de Salah Abdeslam, Franck Berton, avec Antoine Sabag de France Bleu Nord. Âgé de 26 ans, né à Bruxelles, mais de nationalité française, Salah Abdeslam a été arrêté le 18 mars dernier à Molenbeek, après 4 mois de cavale. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Anne.
Selon des sources proches du dossier, Salah Abdeslam devrait être placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe.
Effectivement, information pas encore confirmée par le garde des Sceaux qui évoque, sans plus de précision, un établissement d'Île-de-France en quartier d'isolement. Salah Abdeslam pourra être placé en détention provisoire pendant 4 ans. C'est ce que le code de procédure pénale prévoit pour des faits de terrorisme. Une période qui peut être exceptionnellement prolongée jusqu'à 8 mois supplémentaires par la chambre d'instruction de la cour d'appel. Il va pendant ce temps être interrogé directement par les juges d'instruction français. Ils vont pouvoir enquêter sur ses déclarations. Et puis il y aura le procès. Que peut-il apporter dans la manifestation de la vérité? Tout dépend du comportement de Salah Abdeslam. Va-t-il collaborer avec la justice française? Maître Jean Reinhardt est l'avocat d'une trentaine de familles de victimes. Il espère qu'avec le temps, le suspect parlera.
Vous savez, le temps s'est arrêté pour de nombreuses familles. Ceux qui ont eu malheureusement un proche qui est décédé dans le cadre de ces attentats, ou ceux qui sont blessés, le temps s'est un peu arrêté. On n'est plus dans l'agitation et l'empressement, on devient malheureusement, furieusement patient. Et c'est ce qu'on va devoir faire au fur et à mesure du temps, et c'est pour cela que ma conviction et celle de mes clients, c'est de dire c'est une très bonne chose, c'est une étape décisive que M. Abdeslam soit en France, qu'il soit mis en examen, qu'il soit mis en détention, et qu'il y reste, et qu'on le surveille, et que ce dernier apporte sa contribution à la justice, mais pas n'importe quelle contribution.
Beaucoup de questions demeurent à propos du rôle exact de Salah Abdeslam. S'agit-il d'un rôle purement logistique ou alors avait-il l'intention de se faire exploser, comme les kamikazes? Quelles sont les complicités extérieures? Est-il lié aux attentats de Bruxelles? Vous le voyez, les attentes autour de Salah Abdeslam sont considérables.
Merci Antoine Marette pour vos précisions. La mobilisation des intermittents du spectacle s'étend dans les régions. Ils ont investi 6 théâtres à Montpellier, Caen, Bordeaux, Toulouse ou encore Lille. des intermittents qui ont perturbé la programmation de la Comédie Française et de l'Odéon hier soir à Paris. Ils veulent mettre la pression alors que les négociations ont repris cet après-midi sur leur régime spécifique d'assurance chômage. Angeline Barthes est la secrétaire générale adjointe de la CGT Spectacle. Elle explique les enjeux de la réunion qui vient de s'ouvrir actuellement au ministère du Travail.
Si jamais on arrive à un accord ce soir, on est quasiment sûr d'avoir obtenu les 507 heures sur 12 mois pour les artistes et pour les techniciens. Également, la prise en compte des heures d'enseignement pour les artistes et pour les techniciens à hauteur de 55 au lieu de 70 heures. Et jusqu'à présent, les techniciens n'en bénéficiaient pas, donc c'est une avancée. Les points de désaccord actuels avec nos syndicats d'employeurs concernent beaucoup plus le volet recettes. C'est-à-dire que pour l'instant, les employeurs font peser uniquement sur les salariés le fait de devoir retourner aux 507 heures sur 12 mois. Et pour le moment, les employeurs on ne contribue pas suffisamment. Notamment, on souhaite la suppression du plafonnement des cotisations des artistes et de certains techniciens. Ce sont des abattements sur 20-25%. Ça signifie que les cotisations ne sont faites que sur 75 ou 80% du salaire brut. Ce qui fait qu'à la fois, ces artistes et ces techniciens perdent des droits assurance chômage, retraite, sécurité sociale, mais qu'également, l'employeur ne contribue pas suffisamment à nos caisses sociales. Si jamais on arrive à un accord et qu'il est signé par l'ensemble du secteur, ce sera quand même un signe extrêmement fort par rapport à l'Interpro. Et par ailleurs, on rappellera quand même au gouvernement qu'il nous a promis en juillet 2015 que les intermittents ne seraient pas davantage mis à contribution, qu'ils avaient déjà suffisamment participé aux économies. Je pense qu'il faut quand même qu'on lui rappelle tout ça.
Des propos recueillis par David Ravier. La bataille pour le contrôle de Darty a pris fin. À l'issue de plusieurs mois de tractation, la FNAC assure avoir pris le contrôle de plus de 50% du capital de l'enseigne d'électroménager. Conforama a finalement renoncé à relever son offre. L'entreprise FNAC entend ainsi atténuer sa dépendance au marché du livre et du disque face à la concurrence de groupes comme Amazon. Mais en interne, les syndicats craignent des suppressions de postes à Kim Kasmi.
Si pour les dirigeants de la FNAC, le rachat de Darty est une victoire, pour l'intersyndicale, l'ambiance est au pessimisme, puisque 3000 postes pourraient être supprimés à cause des doublons. Christophe Lecomte, délégué force ouvrière à la FNAC.
Les entreprises ne sont pas philanthropes, donc ils ne conservent qu'un seul siège. Donc les sièges sont forcément menacés. On a deux modèles différents en termes d'organisation. La FNAC est très centralisée, beaucoup plus que Darty. Donc il va forcément y avoir des regroupements. Il y a des logistiques qui sont différentes. Donc forcément, il y aura tous les postes en doublon vont sauter forcément.
Avec l'acquisition de Darty, la FNAC espère réaliser une synergie de 135 millions d'euros par an, notamment en regroupant ses achats. Pour contrer son déclin dans les produits culturels, son cœur de métier où elle doit faire face à une concurrence avec Internet, elle entend également se diversifier dans les objets connectés et le petit électroménager. Mais avant d'arriver à ses fins, elle devra encore avoir l'aval de l'autorité de la concurrence. Dans certaines zones, Darty et la FNAC sont très proches l'une de l'autre, ce qui pourrait créer une situation de monopole et donc la fermeture de certains magasins. Marie-Hélène Thomé, déléguée CGT à la FNAC.
Si l'une des enseignes décide par exemple de céder à l'autre la téléphonie ou l'électroménager, comment est-ce que cela va se passer ? C'est au niveau de l'intégration de nouveaux métiers, de nouveaux segments commerciaux. Là, effectivement, au niveau de la masse salariale, il faudra être vigilant.
Enfin, reste à savoir s'il s'agira d'une intégration ou d'une fusion entre les deux enseignes. Réponse sans doute demain lors du comité d'entreprise de la FNAC.
Autre mariage économique ce mardi, celui des médias et des télécoms. L'opérateur SFR va lancer 7 nouvelles chaînes de télé payantes, donc 5 sportives. La marque au carré rouge va reprendre les 49% de Next Radio TV acquis précédemment par Altice. Sarah Lemoine, Patrick Drahi, le PDG du nouveau groupe, s'inspire de modèles anglo-saxons.
Chez SFR, on parle d'une journée historique. L'opérateur télécom veut en effet devenir le premier acteur en France de la convergence entre télécom, médias et publicité. Convergence qui existe déjà aux États-Unis et en Grande-Bretagne et qui consiste à maîtriser à la fois le contenant et le contenu. Pour y parvenir, SFR va racheter à sa maison mère, le groupe Altice, les 49% qu'il détient dans Next Radio TV, propriétaire de BFM Télé, ainsi que 17 titres de presse écrite. À partir de là, SFR ambitionne d'offrir plus de contenu à ses 18 millions de clients via les smartphones, tablettes et autres canaux de diffusion. À commencer par du sport, 5 chaînes de téléthématiques vont être créées dans les semaines et les mois à venir. Il y aura aussi de la presse avec notamment Libération et l'Express, du news avec la création de BFM Sport et BFM Paris, une chaîne d'actu locale. Et enfin, du divertissement puisque SFR va devenir créateur et producteur de séries originales. L'opérateur SFR, qui est rebaptisé SFR Group pour l'occasion, voit dans cette évolution la clé de son avenir.
Une nouvelle mobilisation contre la loi travail est prévue demain, jeudi. 7 syndicats de salariés et d'étudiants appellent de nouveau à descendre dans la rue. 4e mobilisation en moins de 2 mois, alors que le projet de loi El Khomri arrive la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. 9 trains sur 10 circuleront à la SNCF. Des perturbations sont aussi à prévoir sur la ligne B du RER en région parisienne. Enfin, dans les aéroports, 20% des vols risquent d'être annulés à Orly et il risque d'y avoir des retards à Roissy. Toujours dans le ciel, plus de 1200 vols ont été annulés aujourd'hui en Allemagne, principalement sur la compagnie Lufthansa. La compagnie aérienne subit les conséquences d'un conflit salarial qui ne la concerne pas directement. Les employés de la fonction publique de 6 grands aéroports, dont Munich et Francfort, sont en grève à l'appel du puissant syndicat allemand des services. Ils réclament une augmentation de 6% de leur salaire, grève qui touche également aujourd'hui d'autres secteurs comme les transports publics, le ramassage des ordures ou encore les crèches. Après le report de la réunion extraordinaire des ministres de la zone euro qui devait avoir lieu demain, le Premier ministre grec Alexis Tsipras en appelle aux instances politiques de l'Union européenne. Cela pour débloquer les négociations avec les créanciers de son pays, notamment le FMI. Alexis Tsipras demande au président du Conseil européen Donald Tusk de prendre l'initiative de convoquer un sommet de la zone euro. Sur fond de montée de l'extrême droite, le Parlement autrichien a restreint cet après-midi les critères d'obtention du droit d'asile. Une nouvelle loi vient tout juste d'être adoptée. Bonsoir Blaise Gauquelin.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en direct de Vienne. Le texte prévoit également la possibilité de décréter un état d'urgence migratoire. De quoi s'agit-il exactement ?
Alors en fait, avec ce projet de loi, l'Autriche emboîte le pas à sa voisine hongroise. Il s'agit d'un des textes les plus stricts d'Europe. En fait, il limite à 3 ans le bénéfice de l'asile. Il prévoit de bloquer les migrants aux frontières en cas de forte affluence l'été prochain, sans même les autoriser à déposer une demande et à les refouler s'ils sont passés par des pays sûrs comme l'Italie ou comme la Slovénie. Il faut noter que les débats à l'Assemblée, ici à Vienne, cet après-midi, ont été extrêmement houleux, comme rarement dans un pays quand même assez feutré sur un plan politique, parce que beaucoup d'élus autrichiens sont eux-mêmes issus de familles de réfugiés, des familles hongroises ou yougoslaves, et que le pays s'est déchiré encore sur ce texte. Certains députés sociaux-démocrates, d'ailleurs, ont fait défection. Alors, c'est un texte qui va provoquer aussi la colère à Rome, mais aussi à Bruxelles, parce qu'il risque de faire boule de neige en Europe. Mais les Autrichiens affirment qu'ils ne peuvent pas accueillir toute la misère du monde et que 24 pays européens sur 28 ne font rien ou presque pour soulager le pays qui compte 8,5 millions d'habitants seulement. L'Autriche pointe d'ailleurs souvent l'attitude de la France. L'Autriche qui a enregistré 18 000 demandes d'asile depuis le début de l'année.
Merci Blaise Gauquelin, vous étiez en direct de Vienne. On rappelle que le pays a vu transiter plusieurs centaines de milliers de réfugiés l'an passé. 90 000 personnes ont été accueillies, ce qui représente moins de 2% de la population. Enfin, toujours concernant l'Autriche, le pays songe à construire une barrière de 400 mètres au poste frontière de Brenner avec l'Italie. Cela afin d'empêcher l'entrée de migrants. C'est ce qu'annonce le chef de la police de la province du Tyrol dans un journal local. En Turquie, la sortie du président de l'Assemblée nationale lundi avait soulevé la controverse. Il évoquait la suppression du concept de laïcité dans le cadre de la future constitution souhaitée par le président Recep Tayyip Erdogan. La levée de bouclier a été telle que les dirigeants du pays ont dû démentir toute forme de projet en ce sens pour calmer les esprits. À Istanbul, la correspondance d'Alexandre Billette.
La déclaration du président de l'Assemblée nationale, Ismail Karaman, n'était qu'une opinion personnelle. C'est la réponse du président Erdogan au débat qui a enflammé la Turquie depuis 2 jours. Recep Tayyip Erdogan qui assure que le principe de laïcité, l'un des piliers de la République turque depuis près de 100 ans, est un élément fondamental du pays qu'il a toujours défendu. Le Premier ministre Ahmet Davutoğlu a renchéri, pas question dans la future constitution d'effacer le principe de laïcité. Il faut dire que depuis 2 jours, la déclaration du leader du Parlement a soulevé une tempête ici en Turquie. L'opposition kémaliste a bien évidemment crié au scandale. Les ultranationalistes du MHP ont eux aussi dénoncé cette déclaration. Jusqu'à l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir dont certains membres se sont dissociés des paroles d'Ismail Karaman. Malgré les appels de l'opposition, le président de l'Assemblée, qui est un tenant de la ligne dure, ne devrait pas démissionner. Et la nouvelle constitution que le président Erdogan veut faire adopter à tout prix pour renforcer ses pouvoirs pourrait faire le grand écart en évoquant l'islam et l'existence de Dieu, tout en maintenant le concept de laïcité.
Les explications d'Alexandre Billette. Au Venezuela, les fonctionnaires ne travailleront plus que 2 jours dans la semaine. Après le changement de fuseau horaire, les semaines d'école plus courtes et les coupures de courant quotidiennes dans les plus grands États, c'est la nouvelle mesure du gouvernement pour faire des économies. Le pays est confronté depuis des mois à une grave crise énergétique à laquelle s'ajoute la crise économique due à la chute du prix du pétrole, principale ressource du pays. L'opposition anti-chaviste et majoritaire désormais au Parlement, réclame le départ du président Maduro. Écoutez, Mercedes Vivas, cette franco-vénézuélienne, membre du parti MUD, dénonce la corruption du gouvernement actuel.
Le gouvernement Chavez et le gouvernement Maduro ont détruit l'appareil productif vénézuélien, ont détruit les systèmes de distribution existants. Ils ont volé l'argent du projet d'électricité. Ils ont volé l'argent de la production agricole et agro-industrielle. Et ils ont volé aussi pour l'investissement qu'ils voudraient faire pour la production des médicaments et aussi pour l'achat des médicaments à l'international. La corruption, c'est vraiment un malheur extraordinaire qui s'est développé au Venezuela. Ils sont devenus richissimes. Et autre chose, c'est aussi qu'à travers les contrôles total de l'État, de la distribution d'aliments, de la distribution des médicaments, il y a un contrôle social totalitaire vis-à-vis de la population la plus pauvre. Pouvoir disposer d'un grand clientèle populaire pour la faim, disons, je contrôle la nourriture, je te contrôle. C'est ça la perversité de ce système.
Une interview signée Agera Mohamed. Un léger espoir de paix au Sud-Soudan, en guerre civile depuis 2 ans. Le chef rebelle Riek Machar vient de prêter serment comme vice-président aux côtés de l'actuel chef d'État Salva Kiir. Les deux frères ennemis doivent maintenant former un gouvernement pour préparer de prochaines élections. Après des années de guerre civile, donc, ce début de réconciliation peut aussi ouvrir un chemin de paix pour le pays, mais aussi ne rien donner. Et c'est le point de vue de Christian Delmé, chercheur à l'Institut des Mondes Africains. Il répond à Éléonore Gessner.
Il y a tout un tas de choses qui vont devoir être mises au point, qui ne vont pas forcément diminuer l'emprise des Dinkas sur l'appareil politique et administratif et qui ne va pas forcément rassurer les autres populations. Cet équilibre des pouvoirs entre Nuer et Dinka s'est discuté depuis 2002-2005. Ça s'était très mal terminé puisque Salva Kiir a accusé Riek Machar de vouloir prendre sa place. Riek Machar a fui Djouba en décembre 2013. Il revient à nouveau vice-président. Le nouveau gouvernement transitoire ne va pas être facile à installer. On a 2 armées qui sont indépendantes, qui sont là, à Djouba même pour une partie, et dans les États. Mais au départ, c'est sur la façon de gouverner de Garang et de Salva Kiir que Machar et d'autres s'étaient un peu soulevés. On a des militaires qui sont encore dans la chose militaire, dans l'affrontement, plus que dans la construction du pays. Ça peut marcher, cette affaire, mais ça peut aussi déraper très vite. D'autant que les chefs d'état-major des deux camps, que ce soit Simon Gatwetch pour Riek Machar, que ce soit Paul Malong pour Salva Kiir, on dit, nous, on n'est pas d'accord sur l'orientation que vous prenez dans ces négociations. Ils sont plutôt pour la poursuite du combat. Il y a des doutes quant à la solidité de l'alliance politique-militaire dans les deux camps.
Le temps de votre mercredi sera marqué par des averses sur le nord-est avec un peu de neige, des vents forts en Corse et de belles éclaircies sur le reste du pays. Les minimales sont en baisse avec de faibles gelées sur l'ensemble du nord-est dans le massif central et de la Picardie à la Bretagne. Les maximales atteindront difficilement 9 à 13 degrés au nord de la Loire et 11 à 20 degrés au bord de la Méditerranée.